Allez, bonjour Michel, bienvenue pour votre 40e chronique Astro sur Eudo Radio.
Bonjour Joël.
Alors l'actu pour commencer.
Oui. On envoie des voitures dans l'espace. Hein, je pense que vu le retentissement qu'elle a eu dans les médias, la plupart des auditeurs ont entendu parler de la mise en orbite d'un coupé Tesla par la société SpaceX lors du test de la fusée Falcon Heavy le 6 février, ou même peut-être vu des images étonnantes de ce coupé rouge avec Starman, hein, comme on l'appelle au volant, c'est-à-dire un mannequin habillé en astronaute, flottant dans l'espace avec la Terre en arrière-plan. Personnellement, je trouve ce coup de pub d'Elon Musk un peu douteux. D'ailleurs, alors que ces voitures électriques Tesla sont réputées pour la puissance de leur batterie, celle embarquée sur ce roadster, hein, comme on dit en anglais spatial, n'était prévue que pour 12 heures de fonctionnement. Et il n'y a donc plus d'électricité à bord de l'engin pour alimenter ces caméras embarquées, ce qui nous privera de toutes nouvelles images de cet équipage insolite lors de ses futurs déplacements. Plus sérieusement, cet événement fait écho à nos dernières chroniques de 2017, où j'avais évoqué les futurs lanceurs puissants capables d'envoyer des astronautes dans l'espace. Et j'avais mentionné, à côté du projet SLS, hein, Space Launch System de la NASA, les projets de SpaceX, société fondée par Elon Musk seulement en 2002, et qui, si on en croit ses déclarations médiatiques, viserait la réalisation d'une mission martienne habitée dès 2024. On voit bien que le XXIe siècle semble marquer une certaine privatisation de la conquête spatiale, avec l'arrivée de sociétés privées en complément ou en concurrence des grandes agences nationales comme la NASA, et qui semblent progresser très vite, puisque par exemple, le premier essai du SLS de la NASA n'est prévu que pour fin 2019 au mieux, hein, peut-être même 2020. Pour les plus optimistes, ce serait le signe d'une certaine maturité de ce domaine d'activité et une perspective de démocratisation des voyages spatiaux. Certains prédisant une évolution comme celle du domaine aéronautique, depuis les pionniers de l'aviation au début du XXe siècle jusqu'au tourisme de masse qu'on connaît actuellement. Et il faudrait s'attendre à ce que de nombreux passagers, encore relativement fortunés vu les prix annoncés, hein, puissent prochainement prendre un billet pour un petit tour dans l'espace. La fusée Falcon Heavy, hein, le faucon lourd si on traduit bêtement en français, est le lanceur le plus puissant développé actuellement par SpaceX. Il serait capable de mettre en orbite une charge de 64 tonnes, c'est-à-dire trois fois plus que le lanceur européen Ariane 5 dans sa version la plus puissante. Ou pour fixer les idées, à peu près la masse d'un avion moyen courrier comme un Boeing 737 ou un Airbus A320. On voit donc qu'il est conçu pour propulser dans l'espace une cabine et ses astronautes, peut-être vers de futures missions lunaires ou martiennes. La conception de cette fusée est très particulière, car son premier étage est le même que celui du lanceur Falcon 9, environ trois fois moins puissant, auquel on ajoute deux boosters latéraux pour lui donner plus de puissance, un peu comme pour les décollages des navettes spatiales pour ceux qui s'en souviennent. Et ce moteur central est capable de revenir se poser en douceur quelques minutes après le lancement, ce qui nous rappelle quelques vieux films de science-fiction. Le premier essai réussi de ce réatterrissage avait eu lieu le 21 décembre 2015, et on en avait parlé ici car ce principe permet de réduire notablement le coût des lancements en réutilisant plusieurs fois le même moteur, au lieu de le perdre à chaque fois comme dans les lancements classiques où la plus grande partie de la fusée est perdue. En général, le premier étage retombe dans l'océan.
Et que va devenir justement cette voiture dans l'espace?
Alors qu'on annonçait qu'elle partait en direction de Mars, hein, coup de pub pour les projets martiens de SpaceX, il semble que cet objectif soit raté en fait. Il est donc en orbite autour du Soleil et a été officiellement catalogué comme un astéroïde par le MPC, un Minor Planet Center, qui s'occupe de tous ces petits objets du système solaire, avec le matricule 2018-017A. Et il a même été pris en photo comme un petit point lumineux se déplaçant à environ 2 millions et demi de kilomètres de la Terre dès le 15 février par un observatoire italien. Sa trajectoire très allongée va jusqu'à une distance du Soleil à peu près supérieure à celle, un peu supérieure à celle de Mars, au plus loin, et un peu plus près que la Terre, au plus proche du Soleil, avec une période de 557 jours. Sa vitesse maximum est d'environ 122 000 km/h, hein, ce qui fait quand même beaucoup, même pour un coupé. Mais on peut rassurer nos auditeurs, même s'il coupera l'orbite de la Terre très régulièrement, des astronomes canadiens ont déjà calculé qu'il n'y avait qu'environ 6 chances sur 100 pour qu'il percute notre planète au cours du prochain million d'années. Et encore, il est probable que qu'il se disloquerait en petits morceaux lors de son entrée dans l'atmosphère. Pour ceux que cela intéresse, il y a un site censé donner en direct la position de l'engin. Hein, c'est www.whereisroster.com, c'est-à-dire en français, où est le coupé?
Et de fait, on comprend mieux la formation de notre voisine.
Oui, alors c'est une autre annonce. Quand je parle de voisine, c'est relatif et c'est à grande échelle, puisqu'il est question en fait de la grande galaxie la plus proche de nous, celle d'Andromède, appelée ainsi car elle se situe dans la région du ciel où se trouve cette constellation, mais qu'elle n'a bien sûr aucun rapport avec les étoiles qui forment le dessin d'Andromède. Elle est située beaucoup plus loin de nous, à environ 2,5 millions d'années-lumière. Je rappelle qu'une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en un an. C'est-à-dire que quand on observe cette galaxie, ce qui était mon cas samedi dernier avec mon club d'astronomie, la lumière qui entre dans notre télescope est partie de là-bas il y a 2,5 millions d'années plus tôt, c'est-à-dire à peu près quand Lucie gambadait dans la savane africaine. C'est d'ailleurs l'objet le plus lointain qu'on puisse voir à l'œil nu, souvent plutôt en automne ou en hiver, quand le ciel est bien noir, ce qui n'était pas le cas samedi avec une grosse lune gibbeuse. Si on sait où elle se situe, on l'aperçoit comme une petite tache blanche allongée, blanchâtre allongée. C'est une galaxie, donc un ensemble de centaines de milliards d'étoiles, mais aussi du gaz et de la poussière, un peu plus grande que notre Voie lactée, dont elle se rapproche à environ 200 km/s, ce qui devrait produire une collision dans environ 4 milliards d'années. Alors je rassure nos auditeurs, non seulement c'est très loin dans le futur et ne nous concerne pas vraiment, mais en plus, la collision de galaxies qu'on peut observer sur certaines photos des grands télescopes n'est pas un phénomène catastrophique, car les distances entre les étoiles à l'intérieur d'une galaxie sont énormes. Je rappelle que si on ramène le Soleil à la taille d'un ballon de basket placé à Bordeaux, l'étoile la plus proche de nous, donc figurée par un autre ballon de basket, serait située à peu près à Chicago, à plus de 7000 km de nous. Donc les galaxies présentent donc de grands espaces séparant leurs étoiles, et lorsqu'elles se percutent, il ne s'agit pas d'un cataclysme où des millions d'étoiles se heurteraient les unes les autres, mais plutôt un lent mélange de deux nuages d'étoiles, sans aucune collision violente ou alors vraiment très rare.
Et qu'y a-t-il de neuf à propos de la galaxie d'Andromède ?
Il s'agit justement d'une collision de galaxies, mais pas dans le futur, dans le passé, dévoilée dans une publication du 15 février dans la prestigieuse revue Monthly Notices of the Royal Astronomy Society. Pour commencer l'histoire, il faut comprendre que cette galaxie étant l'une des plus proches de nous, les astronomes peuvent y distinguer des étoiles qui la composent, et ce depuis le début du XXe siècle, avec des télescopes de plusieurs mètres de diamètre. On peut donc connaître assez précisément certaines de leurs caractéristiques, comme pour les étoiles de notre Voie lactée, et en particulier leur mouvement à l'intérieur de la grande spirale en rotation. Or, une étude américaine réalisée entre 2006 et 2014 avait montré un certain désordre dans ces mouvements, contrairement à ce qui se passe dans la Voie lactée, où les étoiles ont des déplacements plutôt cohérents avec la rotation globale de la galaxie. À partir de ces données, avec des moyens de calcul très puissants, une équipe franco-chinoise composée de chercheurs de l'Observatoire de Paris et de l'Observatoire astronomique national de Chine a pu reconstituer l'évolution ayant conduit à cette situation avec une simulation numérique en trois dimensions. Et ce serait donc le résultat de la collision de deux galaxies plus petites qui auraient fusionné pour former la grande spirale d'Andromède. Comme cet événement serait relativement récent, bien sûr à l'échelle de l'univers, c'est à peu près entre 2 et 3 milliards d'années dans le passé, on peut comprendre que tout ne s'est pas encore complètement équilibré et donc que les mouvements résiduels des étoiles de chacune des galaxies initiales expliquent les incohérences relevées par l'étude américaine. Cette simulation explique aussi d'autres particularités de la structure de la galaxie d'Andromède. Cette étude est intéressante parce que cette collision relativement récente a pu avoir des répercussions à l'échelle de tout l'ensemble de galaxies liées par la gravité qu'on appelle le groupe local, qui est formé principalement de trois grandes galaxies, celle d'Andromède, notre Voie lactée, et une galaxie légèrement plus petite située visuellement dans la constellation du Triangle, et aussi d'une soixantaine d'autres galaxies nettement plus petites, comme par exemple les nuages de Magellan, ou les satellites de la galaxie d'Andromède faciles à percevoir dans un petit télescope. Par ailleurs, cette étude confirme les hypothèses sur la formation des grandes galaxies spirales par collision et fusion successives. Et si on peut faire un petit détour par l'imagination, en remontant dans le temps jusqu'à l'époque de cette collision, entre 2 et 3 milliards d'années en arrière, le système solaire et la Terre étaient déjà formés, mais bien sûr, aucun humain ni animal évolué n'était là pour assister au spectacle qui devait pourtant être grandiose. Ces galaxies proches étant probablement perceptibles à l'œil nu dans le ciel, et la collision provoquant la naissance de très nombreuses nouvelles étoiles par des effets de compression sur les nuages de gaz, donc ça donnerait une nébulosité peut-être 50 fois plus lumineuse que la pâle galaxie d'Andromède actuelle. Et je crois que beaucoup d'astronomes auraient aimé y être pour la voir, mais il n'y avait bien entendu aucun homme sur Terre à cette époque.
Deuxième partie de votre chronique, vous allez aborder les galaxies.
Voilà, alors que nous avons souvent évoqué ici la Lune, Mars ou le système solaire, j'ai assez peu parlé des galaxies, mais cette actualité nous en donne justement l'occasion. Historiquement, on peut supposer que de tout temps, les hommes ont pu remarquer dans le ciel étoilé le ruban blanchâtre qu'on nomme Voie lactée. Ce nom est dérivé du latin « via lactea », issu du grec « galaxias kyklos », je ne garantis pas la prononciation, signifiant quelque chose comme « cercle de lait ». Comme pour la plupart des constellations définies dans l'Antiquité grecque, cela fait référence à un épisode de la mythologie. Pour rendre Héraclès, donc Hercule, immortel, Zeus ou Hermès, car il y a différentes versions de l'histoire, l'aurait placé sur la déesse Héra, endormie, pour qu'il puisse téter son sein. En se réveillant, celle-ci arrache brusquement le bébé, provoquant une giclée de lait se répandant dans le ciel, la fameuse voie lactée. D'ailleurs, c'est aussi du grec galaxias que provient le terme galaxie. Pendant l'Antiquité, on s'interroge sur sa nature, mais son aspect nébuleux la fait ranger comme phénomène atmosphérique, d'ailleurs comme les comètes. Car dans l'ancienne conception de l'univers d'Aristote, on séparait le monde sublunaire, donc terrestre, celui des hommes, et supralunaire, celui des dieux. L'Église ayant repris cette conception à son compte, les idées n'évoluèrent pas pendant des siècles. Il faut attendre le début du XVIIe pour que Galilée, braquant la première lunette astronomique vers la Voie lactée en 1610, y découvre de très nombreuses étoiles invisibles à l'œil nu. Expérience que chacun peut faire aujourd'hui avec une simple paire de jumelles. Cette observation est ambiguë, car selon qu'on est partisan de cette nouvelle astronomie instrumentale ou opposant, on peut dire qu'elle révèle de nouvelles choses dans le ciel ou à l'inverse, qu'elle trompe l'observateur en lui montrant des choses qui n'existent pas. La vision de nouvelles étoiles était évidemment un problème pour l'Église, soucieuse de séparer le monde des hommes et celui de Dieu. Cette observation de Galilée peut être considérée comme la première révélation de la nature exacte de la Voie lactée, non pas une nébulosité, mais un immense ensemble d'étoiles très éloignées de nous, donc trop faibles pour être visibles individuellement à l'œil nu. L'utilisation de lunettes de plus en plus puissantes, puis de télescopes, après leur invention par Newton en 1771, permet d'y observer des étoiles de plus en plus nombreuses, mais aussi des objets flous, qualifiés de nébuleuses, car assimilés à des nuages de gaz. En 1774, l'astronome Charles Messier commence à dresser la liste de ces objets diffus qui le gênent dans sa recherche de comètes avec lesquels on peut les confondre. Et en 1781, lorsqu'il publie son fameux catalogue, il y en a 103. Petite parenthèse, c'est de ce catalogue que proviennent toutes les appellations en M, M comme Messier, par exemple M31 pour la grande galaxie d'Andromède, souvent utilisée par les astronomes amateurs auprès desquels ces objets sont très populaires, car faciles à observer dans de petits télescopes modernes. Les instruments ayant beaucoup évolué au XIXe siècle, avec par exemple un télescope géant de 1,83 m de diamètre, surnommé le Léviathan, au centre de l'Irlande, ont répertorié en 1891 dans le New General Catalogue, que les astronomes abrègent en NGC, et son annexe Index Catalogue, qui est abrégé en IC, près de 13 000 de ces objets diffus. Pour certains, la puissance des télescopes permet d'en connaître la nature, en les résolvant, c'est le terme technique, en étoiles. Donc des amas d'étoiles plus ou moins denses. Mais beaucoup conservent leur aspect nébuleux, avec parfois des formes étranges qu'on n'arrive pas à s'expliquer, les nébuleuses spirales.
Ce sont des galaxies.
Oui, mais on ne le sait pas encore. J'ai par exemple dans ma bibliothèque un Larousse de l'astronomie remontant au début du XXe siècle, où l'on montre une des premières photographies de la grande nébuleuse d'Andromède. Parallèlement à ces découvertes, on étudie toujours la Voie lactée, qualifiée de galaxie, avec un G majuscule, car on la croyait unique. En essayant de définir sa forme, notamment le compositeur et astronome anglais d'origine allemande William Herschel, travaillait là-dessus, et sa taille qu'on estime dans les 100 000 années-lumière de diamètre. Il faut donc se représenter l'univers comme on le connaissait à la fin du XIXe siècle, la galaxie, avec un grand G, Voie lactée, contenant toutes les étoiles visibles et tous les objets observables. Il y avait cependant quelques idées discordantes, notamment du philosophe allemand Emmanuel Kant, qui, s'appuyant sur des travaux d'astronomes, publiait dès 1755 l'hypothèse que les nébuleuses elliptiques et spirales pourraient être d'autres galaxies semblables à la Voie lactée. Cette hypothèse est relancée en 1917 quand Herbert Curtis observe une supernova, c'est-à-dire une explosion d'étoiles massives dans la nébuleuse d'Andromède, comme on l'appelait à l'époque, puis retrouve dans les archives photographiques 11 novae, et déduit de leur faible luminosité par rapport à de précédentes observations dans la Voie lactée qu'elles sont situées très loin de nous. Il estime à environ 500 000 années-lumière, donc bien trop loin pour être à l'intérieur de la Voie lactée. Cela ouvre ce qu'on a appelé le grand débat des années 1920 sur la nature de la Voie lactée et des nébuleuses spirales. Il sera réglé par l'astronome américain Edwin Hubble et ses observations faites avec le télescope le plus puissant de l'époque, celui de 2,50 m de l'observatoire du mont Wilson. Avec cet instrument, il peut observer des étoiles bien particulières dans M31, des étoiles qu'on appelle des céphéides. Comme on avait montré que ces étoiles variables ont une luminosité proportionnelle à leur période de variation, la mesure de cette période et de la luminosité apparente permet d'en déduire la distance. Cela permet à Hubble de situer M31 à presque 1 million d'années-lumière, valeur largement sous-estimée par rapport aux mesures actuelles d'à peu près 2,5 millions d'années-lumière, mais bien assez grande pour être hors de la Voie lactée. M31 devient donc la galaxie d'Andromède, et en même temps que des milliers d'autres nébuleuses elliptiques ou spirales des catalogues NGC et IC sont reconnues aussi comme des galaxies. On voit donc le bond fantastique effectué en quelques années dans notre connaissance de l'univers, passant brusquement de la galaxie unique à des milliers de galaxies. Et environ 80 ans plus tard, on a franchi encore une étape quantitative avec l'image historique appelée Deep Field, ou champ profond, réalisée en 1995 avec le télescope spatial Hubble. C'est une photographie de très longue pose pour essayer de révéler des galaxies très lointaines, les plus lointaines possibles, dans une minuscule portion de ciel. Ça correspond à peu près un bouton de chemise vu à 25 mètres. Dans cette toute petite zone, on voit plus de 3000 galaxies sur l'image, les plus lointaines étant estimées à plus de 10 milliards d'années-lumière, soit presque la limite de l'univers observable. Comme on estime que l'univers est relativement homogène, on peut extrapoler ce résultat obtenu sur environ 1/30 millionième du ciel à tout l'espace autour de nous, et cela nous donnerait un univers peuplé d'au moins 100 milliards de galaxies. Et pour finir, de donner le tournis sur la taille de l'univers, il faut se rappeler que chaque grande galaxie, comme la Voie lactée ou M31, contient des centaines de milliards d'étoiles, et que chacune est un soleil comme le nôtre, environ 1 million de fois plus volumineux que notre petite Terre. Ce résultat vertigineux est confirmé par d'autres images plus récentes, comme l'extrême Deep Field de 2012, s'approchant encore plus de la frontière de l'univers visible pour nous, avec des galaxies estimées à seulement 500 millions d'années après le Big Bang. Il contient environ 10 000 galaxies dans un espace à peu près aussi petit que celui du Deep Field, ce qui augmenterait encore sensiblement l'estimation du nombre de galaxies dans notre univers observable.
Et que sait-on de ces galaxies, justement ?
Alors, ces nombreuses et lointaines galaxies nous ont permis d'abord d'en savoir plus sur l'histoire de l'univers. En effet, en utilisant la spectroscopie pour décomposer la lumière de galaxies distantes, Edwin Hubble a constaté que plus elles étaient situées loin de nous, plus elles s'éloignaient rapidement, phénomène connu sous le nom de loi de Hubble, correspondant à l'expansion de l'univers au fil du temps. Pour s'en faire une idée, on peut penser à des grains de raisin d'un cake en train de cuire. Au fur et à mesure que la pâte gonfle, les grains de raisin s'éloignent les uns des autres. Et si l'on se trouve sur un des grains de raisin, on va dire la Voie lactée, on voit tous les autres grains, donc toutes les autres galaxies, s'éloigner de nous, et d'autant plus vite qu'ils sont loin. C'est de ce constat, et aussi des équations de la relativité générale d'Einstein et des concepts de la physique quantique, qu'on a tiré le modèle dit du Big Bang, expliquant l'évolution de l'univers ces 13 milliards d'années, en devenant toujours plus grand. La dernière découverte dans ce domaine date de la fin des années 1990, où l'étude de supernovae situées dans des galaxies très lointaines semble montrer que cette expansion va en s'accélérant, d'où la nécessité d'une mystérieuse énergie sombre, dont on ne sait absolument rien jusqu'à présent, pour expliquer cette accélération. D'autres observations visent à cartographier les galaxies de notre voisinage en trois dimensions, la profondeur nous étant donnée justement par la loi de Hubble, bien vérifiée tant qu'on reste à courte distance, hein, courte entre guillemets, hein, afin de déterminer une éventuelle structure de l'univers. Pour le moment, il semble se dégager une structure en mousse, si je peux dire, les galaxies et les amas de galaxies étant situés en périphérie de grands volumes vides, un peu comme les parois de savon autour des bulles composant la mousse. Cette structure concorde assez bien avec des simulations numériques massives essayant de montrer comment évolue sur des milliards d'années un univers composé au départ de matières distribuées au hasard en faisant simplement jouer les lois de la physique, comme par exemple la gravité. Des observations faites dans les années 1930 par Fritz Zwicky sur les amas de galaxies, puis dans les années 1970 par Vera Rubin sur la rotation des galaxies, semblent montrer qu'il y a une masse manquante pour que les lois de la gravité s'appliquent correctement. On a donc fait l'hypothèse qu'il existe aussi une matière noire, invisible, pour expliquer ces différences, mais à ce jour, on n'a toujours pas réussi à en définir la nature, ni à en détecter la présence sur Terre, malgré tous les efforts déployés pour y parvenir. Par exemple, le laboratoire du Grand Sasso en Italie, installé dans un tunnel autoroutier sous environ 1400 mètres de roche. Concernant toujours le mouvement des galaxies, l'observation de la zone centrale de la Voie lactée pendant une quinzaine d'années a montré que les étoiles y orbitaient rapidement autour d'une masse importante, estimée à environ 4 millions de fois celle du Soleil, mais complètement invisible. On pense donc qu'il s'agirait d'un trou noir supermassif situé au centre de Sagittarius A, une source intense de rayonnement X, c'est-à-dire des ondes très énergétiques comme celles utilisées pour faire des radiographies médicales, ce qui pourrait bien s'expliquer par le gaz tombant rapidement vers le trou noir. Et comme on observe des sources X pratiquement au centre de toutes les grandes galaxies, on pense qu'elles possèdent tout en leur centre un trou noir supermassif qui participerait à leur cohésion. Donc l'image actuelle d'une grande galaxie spirale comme la nôtre, c'est un trou noir supermassif autour duquel orbitent des centaines de milliards d'étoiles liées par la gravité, naissant et disparaissant dans des processus permanents de formation et destruction au sein de grands nuages de gaz et de poussière. Mais si on prend en compte l'existence de la matière noire, ce qui nous est visible ne représenterait qu'environ un sixième de la masse totale, un peu comme la partie émergée d'un iceberg. Il y a donc encore beaucoup de travail pour les astronomes avant de mieux connaître les galaxies et notre univers.
Troisième partie de votre chronique, Michel, le ciel du mois.
Alors, comme dans les dernières chroniques, je vais résumer cette partie en renvoyant plutôt les auditeurs vers la rubrique « Ciel du mois » de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxies.org, pour voir les cartes du ciel correspondantes et avoir plus de détails. Depuis le solstice d'hiver, les journées ont bien rallongé et actuellement le soleil se couche vers 18h45 et la nuit noire débute un peu avant 20h. Mais fin mars, ce sera complètement changé avec le passage à l'heure d'été, dans la nuit du samedi 24 mars au dimanche 25. Je rappelle qu'il faut avancer les horloges, on passe de 2h à 3h. Le 31, le soleil se couchera donc vers 20h30 et la nuit noire commencera vers 21h30. Pour les astronomes, c'est le début des nuits sans sommeil, puisqu'il faut veiller de plus en plus tard pour observer le ciel. En ce début de mois, la très brillante Vénus et la plus discrète Mercure nous reviennent dans les lueurs du crépuscule, donc en soirée, vers l'horizon ouest. En s'écartant progressivement du Soleil, Vénus est visible de plus en plus longtemps, se couchant actuellement environ une heure après le Soleil, mais 1h30 fin mars. Le matin, c'est toujours le brillant Jupiter qui est remarquable dans le ciel, visible haut vers le sud-est à peu près, très longtemps dans les lueurs de l'aube. Il se lève actuellement vers 1h du matin, mais ce sera un peu avant minuit, hein, toujours en heure d'été, à la fin du mois. Je rappelle aux auditeurs qu'avec de simples jumelles, il est possible de percevoir jusqu'à 4 satellites formant comme un alignement de petites étoiles autour de la planète géante. Jupiter est suivi de Mars, bien reconnaissable à sa couleur orangée, et qui commence à devenir aussi brillante que les plus brillantes étoiles du ciel. Il se lève vers 3h15 en ce moment, mais ce sera environ une demi-heure plus tard en fin de mois, et en heure d'été, hein, toujours. Il est suivi de Saturne vers 4h30 ces jours-ci, mais 3h30 après le passage à l'heure d'été. Actuellement, les trois planètes forment un alignement assez régulier dans le ciel du petit matin, mais au fil des jours, Mars va se rapprocher progressivement de Saturne. Les conjonctions du mois de mars sont donc en liaison avec ces planètes, soit vespérales, soit matinales. À partir de minuit, dans la nuit du mardi 6 jusqu'au mardi 7, on pourra voir la lune gibbeuse accompagner Jupiter dans le ciel, écartée d'environ la largeur du pouce bras tendu. À partir de 4h, le matin du samedi 10, le gros croissant de lune, assez proche de Mars, formera une figure de triangle allongé avec Saturne, plus à l'est. Figure reproduite le lendemain matin, le dimanche 11, mais inversée, le croissant de lune étant cette fois à proximité de Saturne. Le soir du dimanche 18, si on a un horizon ouest bien dégagé, on pourra essayer de voir un très très fin croissant de lune, moins de 2% de la surface de la lune éclairée, situé juste sous Vénus. Et comme j'ai dit que Mars se rapprochait de Saturne en fin de mois, j'anticipe un tout petit peu sur avril pour annoncer leur conjonction du lundi 2 avril, le matin, où ils ne seront séparés que de 1 degré environ. C'est à peu près la largeur du petit doigt bras tendu. Et d'un éclat presque égal, malgré leur teinte très différente. Mars est plutôt orangé et Saturne légèrement jaunâtre. Mais je pense qu'on devra en reparler juste avant, à notre prochain rendez-vous, qui est en principe le mercredi 28 mars.
Vous allez en reparler, pas de souci. Alors Michel, deux choses. Alors déjà, redire quelques mots sur constellations et galaxies. Vous en avez dit quelques mots lors de cette chronique. Et puis, il y a un objet également à vos côtés que l'on vient d'entendre. On va en dire quelques mots aussi. Voilà, mais vous allez nous expliquer. Alors d'abord, constellations et galaxies. Allez, redites-nous en quelques mots.
Alors constellations et galaxies, c'est une petite association basée en Dordogne, près de Mussidan, et qui est actif dans le domaine de la diffusion de la culture scientifique, et plus particulièrement dans le domaine de l'astronomie, parce qu'on a la particularité de posséder un planétarium itinérant qui est assez unique dans la région. Et donc, cette activité de planétarium, on la réalise sur une zone très grande, très large, allant de Bordeaux jusqu'à Brive à peu près, et de Angoulême jusqu'à Villeneuve-sur-Lot. On a d'autres activités, donc sur le site web, il y a un onglet planétarium qui permet aux professeurs, par exemple, qui voudraient nous faire venir, mais peut-être aussi des animateurs dans des associations ou des centres de loisirs, qui peuvent savoir quels sont les tarifs, parce que malheureusement, c'est payant, on n'est pas subventionné assez pour pouvoir l'offrir, quelle est la place qu'il faut pour installer le planétarium, un peu le contenu d'une séance, etc. On a d'autres activités plus spécifiques à la Dordogne, en particulier des rotations d'exposition. Et jusqu'à présent, de temps en temps, plutôt aussi dans les centres de loisirs, on faisait quelques ateliers en rapport avec l'astronomie. Mais cette année, on va démarrer une nouvelle activité. D'ailleurs, j'en avais parlé un petit peu à la fin de la dernière chronique. Mais à l'époque, on n'était pas encore sûr d'obtenir les financements. Mais là, c'est fait. La région, dans le cadre d'un appel d'offres concernant la thématique robotique et intelligence artificielle, nous a attribué des subventions qui vont nous permettre de démarrer un atelier robotique itinérant. Donc, ce sera un ensemble de 6 kits. Alors, il y a plein de technologies différentes, mais nous, on a choisi celle de Lego, les petites briques dont les gamins s'amusent pas mal, qui propose un système de robot configurable comme on veut, en assemblant des briques, avec des capteurs, avec des moteurs. Il est programmable avec une petite tablette Android, avec un système de programmation très simple, de blocs de logiciels qu'on assemble les uns avec les autres. Et donc on va proposer, probablement sur 3 séances d'une heure, au collège et au lycée, de nous accueillir pour réaliser cet atelier avec des élèves. Donc ce sera surtout à partir de la rentrée 2018, mais en ce moment, en gros de mars à mai, on va essayer de réaliser déjà des premiers essais avec quelques classes pilotes, probablement 4 ou 5 classes, si possible un peu de collégiens, un peu de lycéens, pour voir un petit peu mieux comment s'organisent ces ateliers et comment bien définir le contenu pour la rentrée. Voilà la nouveauté dans nos activités. Et effectivement,
on aura l'occasion d'en reparler, mais là, c'est vrai, là. Alors, vous avez un objet. Alors, c'est vrai qu'en radio, il faut commenter, mais on mettra quelques photos sur le Facebook.
Ça ressemble à un petit véhicule. C'est la plateforme de base pour Lego. Ils l'appellent Educator. Ça a l'avantage d'être une configuration, disons, un petit peu multifonction. Suivant qu'on va mettre dessus un capteur de distance pour lui demander de s'arrêter à une certaine distance d'un obstacle. À l'inverse, on peut lui mettre une petite cellule photoélectrique pour lui faire suivre une ligne, par exemple, par terre. Là, il est configuré avec le capteur de distance. Je vais juste vous faire entendre. Donc, il y a l'unité centrale dessus qui peut faire un peu de musique, un peu de lumière. Voilà un peu le genre de bruit qu'il peut nous faire. Donc là, on entend les roues tourner. Il affiche des yeux sur son petit écran parce qu'on peut faire des affichages, on peut jouer des musiques. Enfin, il y a plein de possibilités. On ne pourra pas tout explorer dans le cadre d'un atelier de 3 heures. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à parler par mail, à diffuser aux professeurs de technologie cette info qu'on allait démarrer ces ateliers, j'ai eu une réponse d'un professeur de Bordeaux qui m'a annoncé, parce que moi je le savais pas, je connaissais pas complètement ce domaine, qu'il existe des compétitions de robots Lego, on appelle ça la First Lego League, et il y a déjà eu une manifestation à Bordeaux le 20 janvier, qui était une manifestation régionale, c'est une compétition, donc des challenges, si on peut dire, entre équipes. Et la finale nationale aura lieu cette année aussi à Bordeaux. Et ce sera le 17 mars à l'EN, École Nationale Supérieure, ENSEIB, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Donc je pense que ça doit être situé à Talence, je n'ai pas encore vérifié. Où les 20 meilleures équipes nationales vont pouvoir s'affronter. Et pour les professeurs qui voudraient nous rencontrer et discuter un petit peu de ces ateliers, nous serons présents puisqu'il pourra y avoir quelques stands comme ça pour parler de robotique. Et on sera présents avec notre petit robot et des explications pour les profs que ça intéressera.
Très bien, puis on aura l'occasion d'en reparler sur Audio Radio. Voilà, donc peut-être ça va bien. Se passer avant notre prochain rendez-vous du coup. Hein.
Voilà, donc
on va suivre tout cela.
Le samedi, hein, c'est un samedi, le 17
mars. Voilà, 17 mars, et on se retrouve pour la prochaine chronique le mercredi 28, et on va mettre quelques photos sur le Facebook, hein. Voilà, du robot, la tablette.
D'accord.
Voilà, en tout cas, merci Michel, et puis on se retrouve à la fin du mois pour une nouvelle chronique.
Pas de problème.
Allez, merci à vous.